RCF. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission consacrée à l'Europe. Je suis Rémi Jabet, volontaire en service civique au pôle média des jeunes européens de Strasbourg et ce soir c'est notre dernière émission de la saison. Allez, pour cette dernière, laissez-moi vous présenter l'équipe du jour. Europe Minute, c'est le nom de son podcast diffusé sur Radio Arc-en-Ciel, une problématique européenne analysée en 5 minutes. Bonsoir Jonas Schwartz.
Bonjour Rémi.
C'était mon responsable média au sein des jeunes européens de Strasbourg cette année-là. Bonsoir à vous Théo Boucard et merci d'être avec nous.
Bonsoir Rémi.
Je rappelle Théo que vous êtes toujours co-rédacteur en chef du Tourillon, magazine d'actualité européenne. Il était volontaire en service civique dans notre association au pôle Europe par les jeunes. 20, c'est le nombre d'interventions pédagogiques qu'il a effectuées dans les écoles depuis septembre 2020. Martin Deveau de Chambord, bonsoir.
Bonsoir Rémi.
Et 20, c'est un chiffre tout à fait honorable. Hein, entre reconfinement, déconfinement, couvre-feu, vous avez su vous adapter à cette année si particulière. C'est une émission de culture européenne que nous vous proposons ce soir dans Place de l'Europe. Nous allons parler de fiction, de documentaire ou encore de littérature. Nous aurons également le plaisir d'écouter Pauline Collin qui nous parlera de son magazine à destination des jeunes citoyens européens, Mia Europo.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Comment parler d'Europe autrement? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre. Et Johanna, ce soir, vous nous parlez de la magie de l'Europe racontée dans les fictions. Faites-nous rêver.
Alors, pas de problème. En effet, mon rôle dans cette chronique sera de vous mettre 12 étoiles dans les yeux grâce aux films ou documentaires sur l'Europe qui nous ont tous et toutes fait rêver. Le premier qui m'est venu à l'esprit, évidemment, c'est la célébrissime Auberge espagnole de Cédric Clapiche. Vous connaissez tous, j'imagine.
Oui, bien sûr.
Ça m'a fait pleurer quasiment.
Et j'ai entendu qu'une série était en préparation avec les mêmes acteurs et donc les mêmes personnages sur Amazon Prime, il me semble. Mais j'aimerais bien quand même, Johanna, que vous nous redisiez le pitch de l'Auberge espagnole pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu.
Mais avec plaisir, alors je vous la fais courte. On suit le chemin de Xavier, étudiant en sciences économiques, mais qui rêve secrètement d'être écrivain. Au début du film, on apprend qu'il a trouvé un emploi au ministère des Finances. Mais le jeune homme, encore des rêves plein la tête, décide contre toute attente de partir étudier un an à l'étranger à la place. Alors déjà, on nous vend très bien le programme européen Erasmus, connu de tous les jeunes étudiants à la fac. C'est cette période de débauche où, après 2 ans d'études, on vous propose de les finir en beauté, en étudiant une année ou un semestre à l'étranger. Enfin, étudier, ça c'est sur le papier, puisque ce que nous montre le film justement, c'est que cet étudiant sort de ses livres et de sa petite vie pliée en quatre dans un studio parisien et découvre la vie espagnole au rythme de soirées, d'histoires d'amour et surtout de colocataires venus de toute l'Europe, tous aussi représentatifs de leur culture les uns que les autres. On a une véritable ode à la diversité culturelle et c'est bien ça que montre le film, malgré leurs différends et leur diversité. Tous les colocataires habitants de cette fameuse auberge espagnole finissent par s'entendre, s'apprécier et même s'aimer et se soutenir. Un parallèle avec les pays de l'Union européenne ? Dans la même image d'une Europe rêvée, on a le film biopic sur l'écrivain autrichien Stefan Zweig, que je vous conseille de lire d'ailleurs, réalisé par Maria Schrader en 2016. Ce film, il s'appelle en français Stefan Zweig, Adieu l'Europe, et on assiste aux prémices de l'idée européenne, une sorte de fantasme d'une union de l'Europe après la déchirure de la Seconde Guerre mondiale. L'écrivain a été contraint de fuir l'Europe de la guerre, ce qui l'a plongé dans le plus grand désespoir. On se surprend à rêver avec les personnages de ce sentiment de cohésion qui a animé l'idée européenne et qui a donné l'Europe telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça nous rappelle la volonté première de la mise en place d'une telle union, qui était d'abolir à jamais les disparités qui nous divisaient et transformer ces différences en force pour porter notre vieux continent vers le haut. Dans un film où le continent européen est à feu et à sang, l'idée d'une union entre les pays du vieux continent apparaît comme un magnifique coquelicot d'un rouge profond qui pousse sur les cendres d'un no man's land.
Et nous verrons tout à l'heure plus en détail le récit de Stefan Zweig dans son livre Le Monde d'hier avec Martin qui nous a préparé une très belle chronique. Un dernier film à voir peut-être, Johanna ?
Absolument. Dernier film duquel je vais vous parler rapidement, c'est Before Sunrise de Richard Linklater qui date de 1995. C'est un film américain, alors on a un point de vue extérieur sur l'Europe. On suit une histoire d'amour, encore une fois, des plus spontanées qui voient le jour dans un train entre Budapest et Vienne. Un jeune et bel américain, Jesse, croise le regard d'une douce française qui s'appelle Céline et bam, recette magique, c'est le coup de foudre. Ils décident de s'arrêter à Vienne ensemble, le temps d'une nuit, avant que notre Jesse fougueux prenne un avion et s'envole pour repartir aux États-Unis. On suit alors leur course folle dans les rues de la capitale autrichienne et rythmée par la complicité des deux protagonistes, on voit les personnages qui s'émerveillent de la ville en même temps que le spectateur s'émerveille de la magie qui émane de ce film. En effet, c'est sous-jacent, mais le fait que les deux tourtereaux puissent voyager comme cela sans se poser la question des frontières nous renvoie à la possibilité de voyage et de découverte de l'inconnu que rend possible l'Europe avec l'espace Schengen. Trois films donc qui promeuvent l'idée européenne chacun à leur manière et qui raniment un peu les rêves de solidarité et la richesse qu'apporte l'union de différentes cultures et de différents fonctionnements. Comme me l'a dit un jour un adepte de l'union, l'Europe c'est comme un arc-en-ciel. La beauté ne naît pas de la fusion des différentes couleurs, mais de l'harmonie qui naît entre elles lorsqu'elles sont les unes aux côtés des autres.
Et c'est très beau, merci Johanna. Alors on le voit bien à travers ces films, hein, nous sommes dans une Europe riche en multiculturalité et très diversifiée. Mais alors Théo Boucard, je me tourne vers vous. Quand on a envie d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'Europe, lorsque l'on veut en savoir plus sur les institutions européennes, que faut-il regarder ?
Ouais, alors je ne sais pas si on peut essayer de comprendre les arcanes institutionnelles européennes sans se creuser un minimum les méninges. C'est un peu comme essayer de décrypter la vie politique et parlementaire française, à la différence près que le degré d'identification à la vie politique européenne est quand même bien plus faible et assez hétérogène d'un pays à l'autre et d'une classe d'âge à une autre. Pour autant, de nombreux documentaires, fiction ou bien docu-fiction, ont essayé de vulgariser les thématiques de l'Union européenne et des institutions à destination du grand public francophone. Une liste exhaustive serait quand même peut-être trop fastidieuse à dresser.
Et alors, lesquelles pourrait-on retenir ?
L'année dernière a été marquée par la sortie de la première saison de la série Parlement, série comique et satire politique réalisée par Noé Debré, Doran Johnson, Pierre Dorac et Maxime Caligaro.
C'est très bon.
Ce dernier étant également auteur du polar Les Compromis, aussi très bon, qui se passe au Parlement européen. La série raconte l'histoire du jeune Samy, assistant parlementaire d'un député français peu travailleur, qui doit pourtant présenter un amendement qui permettrait de protéger les requins. Rien que ça. Ce qui pourrait passer pour une chose assez simple s'avère être au final un parcours semé d'embûches dans les méandres du triangle institutionnel européen, le tout ponctué par des rencontres aussi touchantes que piégeuses. Je ne vous en dis pas plus, la série est disponible sur France Télévisions, mais la critique a salué une production multilingue avec de bons aperçus sur ce qu'est la vie parlementaire européenne actuellement, même si bien sûr donc d'aucuns ont regretté le fait que ladite vie parlementaire était un brin caricaturé.
Mais à regarder quand même.
Oui, ouais, absolument. Oui. Dans un registre un peu plus sérieux, voire tragique, hein, il faudra bien sûr retenir le film du réalisateur franco-grec Costa Gavras, Adults in the Room, adaptation du livre éponyme de l'ancien ministre des Finances grec Yanis Varoufakis. Cette adaptation raconte comment la manière dont la crise de la dette grecque de 2015 a été gérée par l'Eurogroupe. On y voit comment les principaux ministres des finances européens de l'époque, comme Wolfgang Schäuble pour l'Allemagne ou encore Michel Sapin pour la France, se sont comportés vis-à-vis de Varoufakis et de la Grèce, entre mépris et lâcheté, le tout romancé par l'ancienne rockstar du gouvernement grec qui a démissionné le lendemain du référendum grec bafoué sur la décision de l'Eurogroupe.
Et y a-t-il des documentaires qui sortent un peu de l'ordinaire ?
Évidemment, il y a énormément de documentaires de différentes natures sur l'Union européenne et ses institutions. Toutefois, je souhaitais sortir des archives un épisode de C'est pas sorcier, un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas au sens littéral de la formule presque, puisque celui-ci a été diffusé en 2002, à la faveur de la mise en circulation de l'euro dans 12 pays européens. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que C'est pas sorcier s'attelle à toucher un autre public plus jeune et encore plus profane sur les thématiques européennes.
Alors finalement, Théo, à part nous divertir, à quoi peuvent servir ces productions européennes ?
Ces différentes productions audiovisuelles, en plus de nous divertir, nous fait plonger dans les arcanes bien brumeuses parfois des institutions européennes. Cela permet aux citoyens européens de bien comprendre ce qu'il se passe à Bruxelles, Strasbourg ou à Luxembourg, le tout en appréciant le ton humoristique, satirique ou bien digne d'un thriller. Cela pourrait-il à terme renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne ? C'est la question que l'on peut désormais se poser et je vous la pose à vous, cher public.
Et c'est une question tout à fait légitime, d'autant plus, qu'il y a des séries et films pour tous les goûts. Merci Théo et Johanna, mais vous restez avec nous puisque dans un instant, nous parlerons de l'Europe racontée dans les magazines. C'est le cas notamment de Mia Europo, qui est un magazine pour les jeunes européens à partir de 8 ans. Pauline Collin, sa fondatrice, nous expliquera la façon dont l'Europe leur est racontée. Mais ce sera juste après la pause musicale avec Gaël Faye, Kouibouka.
Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, ô Rwanda bien-aimé. Un million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. Un million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent. À conjurer le sort qu'un désastre engloutit. À se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini.
Je rêve de vous, Kouibouka. I'm dreaming of you.
Quibuca, je rêve de vous. Quibuca, I'm dreaming of you. Quibuca.
Je rêve de vous, chanson d'un soir d'ivoire. Je rêve de vous, mes mots sont dérisoires. Je rêve de vous, quand l'histoire nous égare. Je rêve debout, au jardin des mémoires. Et vu que je renais déjà de nos abysses, je fais de nos sourires d'éternelles cicatrices. Et j'arpente la vie, sans jamais oublier qu'un orage en avril, qu'un soleil en juillet.
Tous ahora, tu bashimira, tu basilicana, tu bibuka. Mubihe byiza twagiranye tuzahora tubahesha agaciro tubibuka n'ubupfura ubaranga. Je rêve de vous, kwibuka, I'm dreaming of you, kwibuka.
Place de l'Europe, RCF Alsace.
Bonsoir à vous, nous poursuivons notre émission consacrée à l'Europe. Comment parler d'Europe autrement? Depuis le début de cette émission, nous tentons d'y répondre à travers les fictions et documentaires notamment. Mais qu'en est-il dans la littérature? Dans un instant, Martin, vous nous parlerez du livre de Stefan Zweig, Le oui. Monde d'hier, souvenir d'un Européen. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute Pauline Collin. Pauline Collin, c'est la fondatrice d'un magazine mensuel pour les enfants européens à partir de 8 ans, Mia Europo. Théo Boucard, vous êtes allé à sa rencontre. On l'écoute.
Bonjour Pauline Collin.
Bonjour Théo.
Alors vous êtes la fondatrice du magazine Mia Europo, qui signifie « Mon Europe » en espéranto, et qui fait découvrir l'Europe aux enfants à partir de 8 ans. Ce projet est parti d'un constat que vous faites. Les enfants d'aujourd'hui sont nés dans une Union européenne avec une monnaie commune, des frontières ouvertes et un passeport européen. Mais force est de constater que ce n'est pas une Europe que tout le monde connaît et que tout le monde a l'habitude vraiment, à laquelle tout le monde s'intéresse particulièrement. Dans chaque numéro, Mia Europo emmène ses lecteurs, donc dans un pays de l'Union européenne, à la découverte d'une région de ce pays par le biais d'un grand reportage. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir.
Alors, une première question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le but de ce magazine et quels enjeux aborde-t-il?
Donc, Mia Europo, comme vous l'avez dit, c'est un magazine pour parler d'Europe aux enfants et surtout pour leur faire découvrir l'Europe. En fait, on est parti du constat que dans la presse jeunesse, dans la littérature jeunesse ou même à l'école, les enfants entendent assez peu parler d'Europe et de fait, ils la connaissent assez mal. Ils connaissent mal à la fois les pays européens, ils ont une vague idée de ce qu'est l'Union européenne, mais surtout, avec ce manque d'informations, ils ont du mal à se représenter eux, enfin à se sentir européens. Voilà. Et pour moi, c'était un problème et c'est pour ça que j'ai eu envie de créer une publication, un contenu qui soit vraiment fait pour eux, à leur niveau, accessible à des enfants, donc à des jeunes citoyens, sur le thème de l'Europe. Donc on a construit le magazine en deux parties. La première, comme vous le disiez, c'est vraiment une petite découverte d'un pays et c'est ça le cœur de Mia Europo. C'est qu'on propose à nos lecteurs de faire un tour d'Europe et en fait dans chaque numéro, on fait étape dans 20 pays de l'Union européenne. Donc là, on va leur parler de géographie, d'histoire, de culture. On va vraiment être le plus concret possible pour donner à voir à nos lecteurs et en fait leur permettre de se représenter et de découvrir le territoire de l'Union européenne. On va aussi leur parler de gastronomie, de sport. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ce soit concret et qu'ils aient une idée de ce à quoi ressemble ce territoire et comment les gens y vivent. Et suite à ça, on a une partie actualité. En fait, ça va être une partie beaucoup plus pédagogique pour permettre à nos lecteurs de comprendre en fait l'Union européenne et de découvrir son actualité.
D'accord. Et justement, au travers de cette publication, est-ce que vous sentez justement que ce jeune public est sensible à ces problématiques européennes, malgré le fait qu'il ne soit pas vraiment très connaisseur? Est-ce que l'Union européenne, ça leur parle ou c'est encore quelque chose, comme vous l'avez dit, de beaucoup trop éloigné de leur réalité d'enfant?
Alors moi, ce que je pense, enfin, j'en suis même persuadée, c'est que ce public, les enfants peuvent tout à fait s'y intéresser et le comprendre pour peu qu'on leur présente d'une façon intéressante et accessible à leur niveau. Je pense vraiment que l'Europe, que l'Union européenne, c'est pas un sujet qui réserve aux adultes et qu'il y a d'autres façons d'en parler que de parler uniquement d'actualité économique et politique. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire. Donc, ça demande vraiment de se creuser la tête, entre guillemets, pour trouver des sujets qui vont intéresser nos lecteurs et qui vont leur parler. Là, par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête. Dans le numéro de Facebook, on a fait notre dossier d'actualité européenne sur les personnalités préférées des ados et des pré-ados européens. D'accord. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on cherche à faire, c'est trouver des sujets intéressés qui vont parler à des enfants, des préados, des adolescents.
D'accord. Et justement, par rapport au développement de votre initiative, est-ce que vous comptez sortir un petit peu de région parisienne, vraiment en termes d'activité professionnelle, et de développer des antennes de votre magazine dans d'autres régions, même d'autres pays européens, pour élargir davantage le public et même donner un ancrage transnational?
Alors, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait. Enfin, c'est un projet qu'on a en tête, de pouvoir traduire Mia Europo pour le rendre accessible à des enfants, enfin à des jeunes dans d'autres pays européens. Pour le moment, c'est vrai que l'entreprise est basée à Paris, mais pour le coup, Mia Europo est distribuée dans toute la France et même dans toute l'Europe. Parce qu'on a déjà des abonnés en Espagne, en Irlande, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg. Donc évidemment, c'est un magazine qui est rédigé en français. Donc nos abonnés dans ces autres pays européens sont pour la plupart des familles francophones. Et après, je pense que ce que je peux vous dire aussi, c'est que notre slogan, c'est les enfants européens. Donc même si Mia Europo est rédigé en français, on ne s'adresse pas à des enfants français, on s'adresse vraiment à des enfants européens. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial dans notre ligne éditoriale. C'est qu'on ne va pas on va pas parler à des Français et on présente l'Europe comme un ensemble et on ne va pas chercher à opposer les pays européens, mais vraiment à faire systématiquement des liens. Donc, évidemment, on est basé en France et la plupart de nos abonnés sont des enfants français, mais je pense que l'aspect européen et l'aspect transnational fait déjà partie de l'identité du magazine.
D'accord. Et pour revenir un petit peu sur la connaissance, ou plutôt la méconnaissance globale des jeunes sur l'Union européenne et l'Europe, question peut-être un petit peu simple, voire simpliste, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous situeriez ces connaissances?
Je pense que c'est très variable d'un enfant à l'autre. Ça va vraiment dépendre, par exemple, des interactions qu'il peut avoir avec sa famille. Enfin, si cet enfant a de la famille qui est installée dans un autre pays européen ou si ses parents lui parlent de temps en temps d'Europe. Ça va dépendre aussi, est-ce que cet enfant a eu la chance de voyager ou pas. Enfin, là, c'est vrai que quand on rencontre ou qu'on échange avec nos lecteurs, les voyages, c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre d'acquérir déjà une connaissance et d'avoir une vision des autres pays européens. Enfin, par exemple, dans notre numéro sur l'Italie, on a des lecteurs qui nous ont dit « Ah mais oui, justement, on y allait. » Enfin, bon, ça va être peut-être moins le cas pour des pays un peu plus éloignés. Oui. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui va jouer. Donc, c'est très variable d'une famille sur l'autre, d'un enfant sur l'autre. Après, on sait aussi que ça dépend de l'appétence que les enfants peuvent avoir sur ce genre de sujet.
Oui.
Je me rappelle, au moment du lancement de Mia Europo, on avait à quelques événements publics et on avait des stands du coup dans des villes ou à des salons où on rencontrait vraiment des enfants et on était vraiment impressionnés par le niveau de connaissance de certains enfants qui étaient férus de géographie, de culture, qui eux-mêmes avaient lu des livres de leur côté et du coup ils étaient face à une carte d'Europe et ils étaient capables à 8-9 ans de situer quasiment tous les pays. Alors que pour d'autres, on sait pas un sujet qui va les intéresser au premier abord, donc ça va être plus difficile d'aller les chercher et de les intéresser en fait à ces sujets-là. Donc je dirais que c'est très variable, mais que évidemment on peut partir quand même du constat que dans l'ensemble, les enfants sont peu informés et peu sensibilisés au sujet européen. Mais mettre une note de 1 à 10, je pense que ce serait pas juste parce que il y a trop d'écart en fait entre les enfants.
D'accord. Et justement, par rapport à tout cela, on dit souvent que les médias, les fictions et la presse sont assez peu tournés vers l'Europe et peu enclins à la faire connaître au grand public. Donc pour vous, quelles seraient au final les solutions ou du moins les bonnes pratiques que ces médias, les producteurs de séries ou de films pourraient adopter pour faire découvrir plus largement l'Europe, selon l'expérience que vous avez justement par rapport à un public peut-être moins averti sur les questions européennes?
Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment trouver le moyen en fait, de parler de l'Europe de façon concrète. Là, dans les médias, j'ai vraiment l'impression que quand on parle d'Europe, dans la majorité des cas, c'est pour parler de sujets économiques ou politiques. Alors, je ne dis pas que ces sujets-là sont pas concrets, mais je dis juste qu'il demande peut-être d'avoir déjà un intérêt particulier ou des connaissances préalables pour vraiment s'y intéresser et les comprendre. Je pense que ce qui est important quand aussi de parler de sa population, de parler des villes, de parler des pays, de la montrer. Enfin, au final, on connaît assez peu même les territoires. Il y a plein de pays pour lesquels on serait incapable, enfin la plupart des personnes seraient incapables de citer rien que 3 villes ou 5 villes. Oui. On va se limiter à la capitale. Enfin, là, actuellement, on est en train de préparer notre reportage sur la Lettonie. Ce sera notre numéro d'avril. Et c'est vrai que, pour le coup, je pense que la Lettonie, pour les Français, fait partie de ces pays qu'on visualise, qu'on connaît très mal. Et donc, je pense que c'est ça qui devrait ressortir à la fois dans les médias et à la fois dans les fictions. Enfin, c'est du concret, c'est montrer. Montrer les territoires, montrer les villes, montrer les gens, montrer comment ils vivent. Et je pense qu'à partir de là, ça pourrait peut-être plus nous intéresser. Et surtout, ça pourrait nous donner une idée un peu de cette époque dans laquelle on vit.
Très bien. Bah, merci beaucoup, Pauline Collin, d'avoir accepté notre interview.
Merci à vous et avec plaisir.
Place de l'Europe, avec le mouvement des jeunes européens, RCF Alsace.
Pauline Collin qui était à votre micro, Théo Boucard, l'intégralité de son interview est à retrouver sur notre site internet jeune-européen-strasbourg.eu. Martin, vous avez lu un livre qui ne vous a pas laissé indifférent, c'est le souvenir d'un Européen, Stefan Zweig. Le livre s'appelle « Le monde d'hier ».
Oui Rémi, « Le monde d'hier », avant d'être une formidable œuvre documentaire, c'est l'autobiographie de Stefan Zweig. Elle suit ce formidable homme de lettres dès sa jeunesse. Nous sommes au tournant des 19e et 20e siècles. Vienne est alors la capitale culturelle de l'Europe, donc de l'Occident et donc du monde. Zweig décrit un empire austro-hongrois qui ne sait pas encore qu'il vit ses dernières heures. Un monde où les bourgeois du ring, l'avenue qui ceinture la capitale impériale, ont comme préoccupation principale d'écouter la dernière symphonie, de voir le dernier ballet et de discuter du prochain opéra. Sigmund Freud y jette les bases de la psychanalyse, Theodor Herzl, celle du sionisme, Joseph Schumpeter y étudie l'économie, bref, l'esprit intellectuel européen est plus vibrant que nulle part ailleurs. Mais la vie de Zweig ne se cantonne pas à l'Autriche. L'étudiant devenu homme de lettres voyage, beaucoup, dans une Europe où l'on peut franchir les frontières sans passeport. Il s'y fait de nombreux amis, des artistes, mais aussi des futurs hommes politiques, se forgeant ainsi un incroyable réseau de relations cosmopolites. À l'été 1918, Zweig prend le train pour rentrer de Belgique, dans un contexte de tension diplomatique auquel personne dans les stations balnéaires de la mer du Nord ne prête grande attention. Une fois passé la lecture du journal en tout cas. Il ne le sait pas encore, mais dans quelques jours, ce sera la guerre. Et avec elle, la fin brutale, traumatisante, déchirante de ce monde de la sécurité si cher au jeune Stéphane. Le voisin devient l'ennemi et les peuples se réjouissent à l'idée d'assassiner ceux avec qui ils partageaient hier d'étroits liens commerciaux et culturels. Je vous laisse, chers auditeurs, découvrir par vous-même la suite de cette vie exceptionnelle. Zweig décrira au fil des pages son expérience de pacifiste convaincu, puis une fois la guerre achevée, la lente reconstruction d'un continent meurtri, coupé net par l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler. L'écriture de ce livre commence justement en 1934, lorsque Zweig, juif autrichien, se voit forcé de fuir en Angleterre pour échapper au nazisme. L'Européen convaincu qu'est Zweig a en effet l'impression que le monde d'hier, cette fois, ne se relèvera pas. Exilé au Brésil, qu'il accueille avec tous les honneurs, il ne peut s'empêcher de rêver à son paradis perdu. Le manuscrit ne sera achevé qu'en 1942, alors que les forces de l'Axe semblent inarrêtables. La veille du suicide de l'écrivain et sa femme. Ce jour-là, justement, il écrivait à la postérité. Maintenant que le monde de mon langage a disparu pour moi et que ma patrie spirituelle, l'Europe, s'est détruite elle-même, je salue tous mes amis. Puissent-ils voir encore l'aurore après la longue nuit? Moi, je suis trop impatient. Je pars avant eux. Si ce livre a comme seule vocation le récit historique presque archéologique de la vieille Europe, tant Stefan Zweig est persuadé d'avoir assisté au chant du cygne de toute une civilisation, force est de constater que ce livre résonne encore aujourd'hui en nous. En effet, à la lecture de ces pages exaltées, on ne peut s'empêcher de se demander « Et si Zweig avait survécu à la guerre? Et s'il avait vu se construire sous ses yeux l'intégration européenne de Schuman, Monnet et Spinelli? Qu'en aurait-il pensé ?» Une chose est sûre, cet exercice, bien qu'insoluble, nous donne envie de protéger, renforcer, s'accrocher à ce que l'on a. À une Europe où les conflits se règlent dans des couloirs bruxellois plutôt que sur des champs de bataille. Une Europe où l'on peut passer les frontières à sa guise et avoir des amis qui ne parlent pas la même langue. Le monde d'hier, souvenir d'un Européen, signé Stefan Zweig, est disponible dans toutes les bonnes librairies. Un livre à lire, offrir et prêter à ceux qu'on aime.
Eh bien, merci Martin. J'espère que ça donnera de bonnes idées de lecture à nos auditeurs. C'est la fin de notre émission. Alors avant de conclure, quelques mots de remerciement, car oui, aujourd'hui était notre dernière émission de la saison. Alors tout d'abord, je remercie chaleureusement notre présidente des Jeunes Européens de Strasbourg, Andrea Kamen, pour sa confiance. Un grand merci également au Pôle Média pour la production de cette émission, Théo Boucard, Gwen Taburé. Et merci à Théo qui était en régie à chaque enregistrement depuis septembre. Merci à vous, Johanna et Martin. J'espère à bientôt.
Bah, merci Rémi, c'était un plaisir de travailler avec toi et j'espère pas la dernière fois.
Mais non, pas la dernière fois. Alors cette émission vous a été présentée par l'association transpartisane des jeunes européens de Strasbourg. Nous sommes partisans pour une Europe plus sociale, plus démocratique et à terme plus fédérale. Si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à consulter notre site internet jeunes-européens-strasbourg.eu. On vous accueillera avec grand plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Excellente soirée à vous.